to this choir.
Pour ce chœur. Puissent-ils accepter les remerciements de tous ceux qui font partie de cette audience. Cette prière qui représente le sermon ultime de toute conférence de cette Église et le cri du cœur de chaque être humain. Maintenant, si je puis m'exprimer, je vais essayer de le faire. Les prophéties concernant les derniers jours mentionnent souvent des calamités à grande échelle, par exemple des tremblements de terre, des famines ou des inondations. Ces dernières peuvent alors entraîner des bouleversements économiques ou politiques de grande ampleur d'un genre ou d'un autre. Mais il y a une sorte de destruction des derniers jours qui a toujours semblé plus personnelle que publique, plus individuelle que collective. Un avertissement qui est peut-être plus applicable à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur. Le Sauveur avertit que dans les derniers jours, même les personnes de l'Alliance, les élus même, pourraient être séduites par l'ennemi de la vérité. Si nous considérons cela comme une forme de destruction spirituelle, cela peut éclairer une autre prophétie concernant les derniers jours. Considérez le cœur comme le centre de notre foi, au sens figuré, le lieu poétique de nos loyautés et de nos valeurs. Puis pensez à la déclaration de Jésus que, dans les derniers jours, le cœur des hommes leur manquerait. Ce qui est encourageant, bien sûr, c'est que notre Père Céleste connaît tous ces dangers des derniers jours, ces troubles du cœur et de l'âme, et qu'il a donné des recommandations et des protections pour les éviter. À la lumière de cela, il m'a toujours paru intéressant que le livre de Mormon, l'une des fortes pierres angulaires du Seigneur dans cette contre-offensive contre les maux des derniers jours, commence par une grande parabole sur la vie, une longue allégorie sur l'opposition entre l'espérance et la peur, la lumière et les ténèbres, le salut et la destruction. Une allégorie dont Sœur Anne Dibb a parlé ce matin de manière si émouvante. Dans la vision de Lehi, un voyage déjà difficile devient encore plus dur lorsqu'un brouillard de ténèbres se lève et cache la vue du chemin sûr mais étroit que sa famille et d'autres doivent suivre. Il est impératif de noter que ce brouillard de ténèbres descend sur tous les voyageurs, les fidèles et les déterminés, nous pourrions même dire les élus, comme les faibles et les inconstants. Le principal enseignement de l'histoire est que les voyageurs qui réussissent sont ceux qui résistent à toutes les distractions, y compris à la tentation des sentiers interdits et aux railleries des vaniteux et orgueilleux qui les avaient empruntés. Le récit raconte que les personnes protégées sont allées résolument de l'avant, se tenant continuellement avec fermeté et ténacité à une barre de fer qui s'étendait sans interruption le long du vrai chemin. Quelque sombre que soit la nuit ou le jour, la barre marque la direction de ce sentier solitaire et rédempteur. Néphi dit plus tard, « Je vis que la barre de fer était la parole de Dieu, conduisant à l'arbre de vie, représentation de l'amour de Dieu. » Après avoir vu cette manifestation de l'amour de Dieu, Néphi explique, « Je regardais et vis le Rédempteur du monde, qui exerçait son ministère auprès du peuple, avec puissance et une grande gloire, et je vis des multitudes de gens qui étaient malades, et qui étaient affligés de toutes sortes de maladies, et de démons, et d'esprits impurs. Et ils étaient guéris par le pouvoir de l'agneau de Dieu. Et les démons et les esprits impurs étaient chassés. L'amour la guérison, l'aide, l'espérance, le pouvoir du Christ de contrer toutes les difficultés à toutes les époques, y compris la fin des temps. C'est le havre de sécurité que Dieu veut nous donner au jour de désespoir personnel ou public. C'est le message par lequel le livre de Mormon commence et par lequel il finit. Tous sont appelés à aller au Christ et à être rendus parfaits en lui. Cette expression, tirée du témoignage final de Moroni et écrite 1000 ans après la vision de Léhi, est le témoignage d'un homme mourant au sujet du véritable chemin. Je vais maintenant parler d'un témoignage moderne des derniers jours. Lorsque Joseph Smith et son frère Hiram se sont mis en route pour Carthage pour affronter ce qu'ils savaient être un martyr imminent, Hiram a lu les paroles suivantes pour réconforter son frère. « Tu as été fidèle. C'est pourquoi tes vêtements seront purifiés. Tu seras rendu fort au point de t'asseoir dans le lieu que j'ai préparé dans les demeures de mon père. » Et maintenant, moi, Moroni, je vous dis adieu jusqu'à ce que nous nous rencontrions devant le siège du jugement du Christ. Ce sont quelques courts versets du 12e chapitre d'Éther dans le livre de Mormon. Avant de refermer le livre, Hiram a corné la page qu'il venait de lire, la faisant ainsi entrer dans le témoignage éternel pour lequel les deux frères étaient sur le point de mourir. J'ai ce livre à la main, l'exemplaire même dont Hiram s'est servi pour lire, et la même page cornée est toujours visible. Plus tard, lorsqu'il était incarcéré dans la prison de Carthage, Joseph, le prophète, s'est tourné vers les gardes qui le retenaient captif et a rendu un témoignage puissant de l'authenticité divine du livre de Mormon. Peu après, les pistolets et les balles allaient ôter la vie à ces deux testateurs. Je vais vous parler de l'un des milliers d'éléments qui composent mon témoignage personnel de l'origine divine du livre de Mormon, d'un aspect qui est une preuve supplémentaire de sa véracité. Je vous le demande. À ces heures d'extrême besoin, qui étaient aussi leur dernière, ces hommes blasphémeraient-ils devant Dieu en continuant de baser leur vie, leur honneur et leur propre quête de salut éternel sur un livre, et donc sur une église et un ministère qu'ils auraient inventé de toutes pièces? Ne parlons pas du fait que leurs femmes allaient devenir veuves et leurs enfants orphelins. Ne parlons pas de leur petite troupe de fidèles qui allaient se retrouver sans maison, sans foyer, sans amis, ni de leurs enfants qui allaient laisser des empreintes ensanglantées sur les fleuves gelés et le sol des plaines sauvages. Ne parlons pas des innombrables personnes qui allaient mourir et des nombreuses autres qui allaient vivre pour déclarer dans le monde entier qu'elles savent que le livre de Mormon et l'Église qui adhère sont vrais. Sans tenir compte de tout cela, dites-moi si à cette heure où la mort approchait, ces deux hommes auraient voulu entrer en présence de leur juge éternel en citant un livre et en trouvant du réconfort dans un ouvrage qui, s'il n'était pas la parole de Dieu, les condamnerait pour imposture et charlatanerie jusqu'à la fin des temps. Ils ne le feraient pas. Ils étaient prêts à mourir plutôt que de nier l'origine divine et la véracité éternelle du livre de Mormon. Pendant 179 ans, ce livre a été examiné, attaqué, rejeté, décortiqué, pris pour cible et critiqué comme peut-être aucun autre livre de l'histoire religieuse moderne, ni peut-être même aucun autre livre dans toute l'histoire religieuse. Et il est toujours là. Des théories infondées sont nées, ont été répétées, puis ont disparu. D'Ethan Smith à Solomon Spaulding, en passant par le délire paranoïaque et le génie rusé. Aucune de ces explications franchement pathétiques n'a jamais résisté à l'examen, parce qu'il n'y a pas d'autre explication que celle donnée par Joseph lorsqu'il était son jeune traducteur dépourvu d'instruction. En cela, j'adhère totalement aux paroles de mon propre arrière-grand-père qui a dit simplement « Aucun homme méchant n'aurait pu écrire un livre comme celui-ci, ni aucun homme bon, à moins que cela soit vrai, et que Dieu lui ait commandé de le faire. » Je témoigne que personne ne peut obtenir une foi complète, ni de ce fait trouver la pleine mesure de paix et de réconfort pour notre époque, s'il n'accepte pas la nature divine du Livre de Mormon et du Seigneur Jésus-Christ dont il témoigne. Si quiconque est assez fou ou induit en erreur pour rejeter 531 pages d'un texte jusqu'alors inconnu, qui regorge de complexité littéraire et sémitique, sans essayer honnêtement de donner une explication à son origine, particulièrement à son témoignage puissant de Jésus-Christ et à l'influence spirituelle profonde que ce témoignage a eue sur maintenant des dizaines de millions de lecteurs. Cette personne, élue ou non, aura été séduite, et si elle quitte l'Église, ce devra être en passant outre au Livre de Mormon. Dans ce sens, ce livre est ce que l'on a dit que le Christ était lui-même, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un obstacle sur le chemin de celui qui ne souhaite pas croire. Des témoins, même des témoins qui ont été un certain temps hostiles à Joseph, ont témoigné jusqu'à leur mort qu'ils avaient vu un ange et touché les plaques. Ils ont déclaré, elles nous ont été montrées par le pouvoir de Dieu et non de l'homme. C'est pourquoi nous savons avec certitude que l'œuvre est vraie. Je ne me trouvais pas avec le frère de Jared lorsqu'ils ont traversé un océan et se sont installés dans un nouveau monde. Je n'ai pas entendu le roi Benjamin faire son sermon dont le message lui avait été donné par un ange. Je n'ai pas prêché avec Alma et Amulek, ni été témoin de la mort par le feu de croyants innocents. Je ne me trouvais pas dans la foule néphite qui a touché les plaies du Seigneur ressuscité. Et je n'ai pas non plus pleuré avec Mormon et Moroni sur la destruction de toute une civilisation. Cependant, mon témoignage de ces annales et de la paix qu'elles procurent au cœur humain est sans équivoque et m'engage autant que le leur. Comme eux, je donne mon nom au monde pour témoigner au monde de ce que j'ai vu. Et comme eux, je ne mens pas. Dieu en rend témoignage. Je demande que mon témoignage du Livre de Mormon et de tout ce qu'il implique, rendu ici en vertu de mon serment et de mon office, soit enregistré par les hommes sur la terre et par les anges aux cieux. J'espère qu'il me reste quelques années dans mes derniers jours, mais que ce soit le cas ou non, je veux qu'il soit absolument clair le jour où je me tiendrai à la barre du jugement de Dieu, que j'ai déclaré au monde dans le langage le plus direct dont je sois capable, que le livre de Mormon est vrai, qu'il est paru comme Joseph l'a dit, et qu'il a été donné pour apporter aux fidèles bonheur et espoir dans le labeur de ces derniers jours. Mon témoignage fait écho à celui de Néphi, qui a écrit une partie de ce livre dans ses derniers jours. Et écoutez ces paroles et croyez au Christ. Et si vous ne croyez pas en ces paroles, croyez au Christ. Et si vous croyez au Christ, vous croirez en ces paroles, car elles sont les paroles du Christ. Et elles enseignent à tous les hommes qu'ils doivent faire le bien. Et si elles ne sont pas les paroles du Christ, jugez-en, car le Christ vous montrera au dernier jour, avec puissance et une grande gloire, quelles sont ces paroles au dernier jour. Mes frères et sœurs, Dieu pourvoit toujours à la sécurité de l'âme. Et il a fait de même à notre époque avec le livre de Mormon. Souvenez-vous de cette déclaration de Jésus lui-même. Quiconque garde précieusement ma parole ne sera pas séduit. Et dans les derniers jours, ni votre cœur, ni votre foi ne vous manqueront. J'en témoigne sincèrement au nom de Jésus-Christ. Amen.